BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et pour ceux qui ont un peu chaud, qui cherchent du frais, vous le trouverez aussi sur les marchés. C'est un peu frais, oui, vraiment.
Pas plus mal, hein.
Ouais. Voilà.
Tranquille. 40, oui, effectivement, où il se passe pas grand chose. La séance est assez indécise, hein, du côté de Paris, avec un indice parisien qui est globalement inchangé. On est sur nos points d'équilibre par rapport à l'ouverture de ce matin. Un petit coup d'œil sur les marchés américains. Le Dow Jones, plus 0,1%. Voilà, le CAC 40, moins 0,04%. Donc, voilà, autant dire pas grand chose. Alors, en tête des progressions du CAC 40, qu'est-ce qui grimpe? Des secteurs un petit peu plus traditionnels. Encore une fois, on est reparti dans les mécaniques de, allez, on va pas dire flight to quality, mais reprise, peut-être une gestion value autour des grosses valeurs industrielles. Il y a l'automobile qui se distingue, hein, plus 1,86 pour Renault, qui est à 25,76 €. On a Michelin, plus 2, on est à 34,94 €. Et Stellantis, plus 3,9 %, on est toujours sous les 5 €, hein, 4,85 €. Puis la plus forte hausse du CAC 40, c'est ArcelorMittal qui gagne 5,7 %. On est à 57,64 €. Au chapitre des baisses, qu'avons-nous du côté de l'indice vedette de la Bourse de Paris? Eh bien, plutôt les secteurs défense et aviation. Thalès, moins 2,29 €, on est à 221,60 €. Safran, moins 1,56 € à 344,70 €. Et puis les secteurs liés à l'intelligence artificielle, la tech et l'électricité, de toute manière. Le Grand, moins 1,45 € à 139,30 €. STMicro, moins 1,37 €, 61,82 €. Petite respiration pour nos pépites tech. 40.
Maxime Lejuez avec nous pour GSD. Bonjour Maxime, ravi de vous retrouver.
Bonjour,
à Paris, quelle sera la publication à suivre dans les prochains trimestriels? La publication qui pourrait transformer le potentiel d'une valeur d'après vous là?
Bah, nous, on sera quand même attentif au secteur du luxe et plus particulièrement LVMH qu'on aime bien et qu'on suit depuis très longtemps. C'est vrai que la publication du deuxième trimestre va être très importante parce qu'elle arrive en fait après un premier trimestre qui était encore décevant. Alors, il y avait la plus grande division, c'est la division mode et maroquinerie qui avait continué de peser un peu négativement sur les résultats. Mais on avait quand même quelques signaux positifs qui commençaient à émerger. On avait notamment chez Dior le renouvellement créatif qui semblait un petit peu prendre forme. Donc, en fait, sur la publication de LVMH, le marché va regarder deux choses. D'abord, les chiffres, bien sûr. Mais surtout, le marché va être très attentif au discours du management sur la deuxième partie de l'année. Est-ce que, par exemple, pour LVMH, Dior va confirmer son redressement? Est-ce que Louis Vuitton va retrouver une meilleure dynamique? Est-ce que la demande en Chine va s'améliorer? Et c'est très important pour LVMH parce que depuis deux ans, en fait, les investisseurs se sont largement détournés du secteur du luxe. Les valorisations ont été comprimées. On sait que les multiples de valorisation se sont contractés aussi. Et en fait, aujourd'hui, LVMH, il est finalement presque plus valorisé sur ses difficultés actuelles que sur sa capacité de rebond à moyen terme. Donc, si cette publication, elle confirme que le point bas est derrière nous et que le management devient un peu plus confiant pour la deuxième partie de l'année, bien, les investisseurs pourraient commencer à revenir un petit peu sur le secteur et on pourrait avoir des analystes qui revoient leurs prévisions à la hausse, qui remonteraient aussi les multiples de valorisation. Donc, le véritable enjeu, en fait, pour LVMH, c'est pas de savoir si le groupe va gagner quelques millions de plus ou de moins, mais de savoir, en fait, si le groupe peut convaincre les investisseurs que la phase de ralentissement est terminée. Parce que si c'est le cas, en fait, l'intérêt pour tout le secteur du luxe pourrait rapidement revenir.
Alors, ça va être passionnant de suivre, effectivement, comment le marché discrimine les différents acteurs du luxe là, dans cette saison de publication. Et puis, dans la tech aussi, une publication à suivre la semaine prochaine. En Europe, ASML, le 15 juillet, annoncera ses résultats. Qu'est-ce qu'il faut en attendre?
Alors, déjà, ce qu'il faut avoir en tête pour ASML, c'est que l'action, elle a quand même augmenté de 60% depuis le début de l'année et qu'elle se paye très cher. On est à 51 fois les profits attendus pour 2026. Donc, à ce niveau de valorisation, la qualité de l'entreprise, c'est plus un sujet. C'est sûr que c'est la première capitalisation européenne. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une pépite avec un quasi-monopole sur la lithographie. Mais le sujet, c'est est-ce que le niveau des attentes est déjà dans les cours? Parce que finalement, pour ASML, le trimestre publié va compter assez peu. Ce que le marché va surtout regarder, c'est une seule ligne, c'est les prises de commandes. C'est en général ce qui fait bouger le titre, parfois violemment d'ailleurs, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est ça qui va devenir intéressant, parce que quand vous payez 50 fois les profits attendus pour une publication, et bien, pour une entreprise, et bien, si la publication est tout simplement, elle est juste correcte, et bien, ça suffit. Le marché attend sûrement, là, pour ASML, une surprise positive, en particulier sur les prises de commandes. Donc, ça va être très intéressant de regarder ça. Et puis, il y a une bonne raison aussi de regarder ASML, c'est qu'ils sont tout en amont de la chaîne de valeur de l'IA. Parce que concrètement, ASML vend des machines qui permettent de fabriquer des puces. Donc quand on a un groupe comme TSMC ou Samsung qui commande chez ASML, c'est qu'il a décidé d'investir aujourd'hui pour une capacité à produire qui tournera dans 1 ou 2 ans. Donc, si les commandes sont fortes, c'est un bon présage pour tout le secteur des semi-conducteurs et pour le narratif IA un peu en général. Et si elles déçoivent, ça posera la question. On arrive à un plateau dans le cycle d'investissement. Donc, voilà, ce sera très intéressant à regarder.
Ah oui, vraiment, la semaine prochaine, hein, faut pas la rater, cette semaine boursière. Alors, bien sûr, nous, il y a le pont du 14 juillet, mais le 14 juillet, on va publier, oui, le 14, JP Morgan, ce sera mardi. Et puis, ASML, vous le disiez, donc, le 15 juillet. Je voyais dans les valeurs dans lesquelles vous croyez pour la suite, je voyais, alors, c'est vraiment pas de saison, enfin, dans l'imaginaire, parce que Compagnie des Alpes, on pense au Sassonski, mais bien sûr, c'est aussi des parts d'attraction. Alors là, on se dit, avec la canicule qui en finit pas, qui dure des semaines et qui va encore durer, bref, on se dit, le ski, ça va être de plus en plus dur, hein. Mais non, c'est une de vos pépites, Compagnie des Alpes, pour la suite, Maxime, est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, c'est vrai que Compagnie des Alpes, alors on pense souvent au domaine skiable, mais c'est aussi des villages un peu partout en Europe, des parcs d'attractions, et quand on sait que eh bien, le tourisme, avec le contexte justement un peu géopolitique au Moyen-Orient qui risque d'être un petit peu perturbé, on peut penser que les Français et puis les Européens là, restent un petit peu plus en Europe sur les prochaines vacances estivales. Et un type comme la Compagnie des Alpes pourrait en profiter. Nous, d'ailleurs, on est plutôt acheteurs sur ces prix à 21, 22 euros. C'est vrai que le titre a été monté à un peu moins de 30 euros. On était à 28, 29 euros sur la première partie de l'année. Nous, honnêtement, on est acheteurs. On pense qu'il y a encore un potentiel, justement, de rebond pour ce titre, pour cette valeur.
Oui, il y a Saint-Gobain aussi dans lequel vous croyez particulièrement, Maxime?
Oui, alors Saint-Gobain, c'est vrai que nous, on est plutôt à l'achat sur ces cours. C'est un titre qui a finalement été un petit peu sanctionné. Le titre doit perdre un peu plus de 10% depuis le début de l'année. Et finalement, nous, on trouve que c'est un peu sévère parce que les chiffres de la dernière publication étaient pas si mauvais. Et justement, on pense qu'il pourrait peut-être y avoir une bonne surprise sur la prochaine publication. Et si justement les chiffres pour le deuxième trimestre sont plutôt bons, eh bien... on pense qu'il pourrait y avoir un rebond sur ce titre.
Ouais, Saint-Gobain, donc parmi vos valeurs favorites pour la suite. Aujourd'hui, on a trouvé mieux. Un titre en hausse, alors on est au-delà du marché parisien, on est à Londres. Un titre en hausse de 15% à l'instant, vous me voyez venir Maxime. C'est EasyJet. EasyJet donne son accord de principe pour un rachat par Apollo. Apollo qui a surenchéri face à l'offre de Castle Lake. Et donc EasyJet dit oui à Apollo, s'offre un Apollo pour 5,7 milliards de livres. 14% de hausse en ce moment, ce titre EasyJet. Ça confirme quand même le mouvement de fusion-acquisition qui touche beaucoup de pépites boursières en ce moment. Il y a EasyJet, il y a également Pierre et Vacances, il y a Edenred, il y a Exel qui se fera racheter par Thales. Ben, ce mouvement, comment est-ce que vous le regardez? Il y a un vrai... Il se passe vraiment quelque chose là. On n'est pas dans l'ordre ordinaire des fusions-acquisitions et des OPA. On a un rythme de plus en plus soutenu, Maxime.
Bah, c'est vrai, vous avez raison, Guillaume. Et d'ailleurs, le marché des fusions-acquisitions en Europe, il est en hausse de 49% en fait, par rapport à l'an dernier. Donc on a l'impression que finalement, ni la guerre en Iran, ni le blocage du détroit d'Ormuz ou l'envolée des prix du pétrole, eh bien, n'ont enrayé la forte dynamique du marché des fusions-acquisitions. Et c'est vrai qu'on a vu d'ailleurs des très gros deals même se faire sur les derniers mois. On avait vu Engie racheter UK Power pour un peu plus de 20 milliards. On a le deal en France sur les télécoms avec le rachat de SFR par les trois autres opérateurs. Et c'est vrai que cette vague, elle pourrait se poursuivre parce que les actifs européens, ils restent nettement décotés par rapport aux Américains. Et surtout, il y a un vrai discours politique en faveur des champions européens. Donc, nous, après, où est-ce qu'on peut regarder concrètement? Nous, on pense que typiquement, le secteur des banques, c'est un secteur qui est très fragmenté. On a des acteurs de taille moyenne, bien capitalisés, pas trop chers. Et donc, notamment en Italie ou en Espagne, on sait que la consolidation est déjà en marche. Et il y a même d'ailleurs certains qui commencent à rêver d'une consolidation des champions à l'échelle européenne. Parce que je pense notamment à UniCredit qui montre la voie avec le rachat de Commerzbank. Alors, même si au départ, le gouvernement allemand était très réticent face à ce rachat, eh bien le dossier en fait il a franchi une étape décisive puisque aujourd'hui UniCredit détient peut-être 48% de Commerzbank et ça change complètement la donne parce que on se dit justement eh bien le fameux verrou politique de la consolidation bancaire européenne eh bien qui a longtemps été considéré comme quelque chose d'infranchissable pourrait céder et ça pourrait être un signal pour tout le secteur et oui. Dans ce cas-là il pourrait y avoir d'autres idées
Et David Benamou pour Axiom IM nous disait, c'était mercredi avant-hier, dans Thème d'avenir, que pour lui, effectivement, on est à l'aube d'une vraie consolidation du secteur bancaire européen qui pourrait connaître un boom comme le secteur bancaire américain dans les années 90. Sous Bill Clinton, il y a eu 2-3 avancées qui ont permis justement aux banques américaines de s'émanciper. Et il voit ça venir désormais, alors avec plus de 20 ans de retard, mais il finit par voir ça venir aussi en Europe. C'est très intéressant dans Thème d'avenir, donc David Benamou sur le potentiel du secteur bancaire. Merci Maxime de nous avoir accompagnés. Maxime Lejeunesse pour GSDG.